Alors, ce chiffre dédié, ce cours dédié à l'élévation de l'âme de Shlomo ben David et Masorda Zichrono Livracha. Oui, alors la question de Yonatan. Yonatan dit, répète la question s'il te plaît.
J'ai dit que dans Bereshit, tout est dit. C'est-à-dire que, comme disent les Rahamim, c'est que avec Bereshit, je peux savoir le début comme la fin. J'ai juste la...
Toute la Torah est inclue dans Bereshit, dans le mot Bereshit.
Le gars ouais. De Vilna a dit ouais, c'est à la juste. Fin de sa vie, il s'est restreint sur Bereshit. On dit plus que ça, on dit que même dans le bête de Bereshit, alors on peut savoir... Alors maintenant avec...
Tout est inclus dans la première lettre de la Torah, c'est juste.
Alors maintenant avec tous les poskim qu'on a, tous les commentateurs qu'on a aujourd'hui qui ont développé des plein de façons de faire, plein de façons de...
Notre compréhension nouvelle.
Alors comment on n'arrive pas à trouver cette fin potentielle dans Bereshit ?
Il faut comprendre que plus on avance dans l'histoire, plus on régresse en fait, plus on baisse de niveau. T'as pas compris la question ? Il dit, la Torah aujourd'hui, elle est beaucoup plus vaste qu'il y a 2000 ans. 2000 ans, il y avait la Mishnah, après il y a eu la Gemara, après il y a eu les Rishonim, quelques-uns, par ces quelques dizaines. Aujourd'hui, tu as des centaines de milliers de livres. Centaines de milliers. Alors, vu que la Torah est tellement vaste, certainement, il y a plus d'intelligence, plus de sagesse, donc il y a une compréhension qui est plus profonde. Or, étant donné qu'il est marqué que toute la Torah se trouve en signe, en caché, mais se trouve caché dans le premier mot de la Torah, Bereshit, et que toute cette Torah se trouve aussi cachée et incluse dans, la première lettre de la Torah, Bet, où pouvons-nous obtenir cette explication ? Vu qu'aujourd'hui, il y a tellement de sagesse, tellement de livres, il y a bien quelqu'un qui a découvert cela et qui peut nous le dévoiler. Réponse, non. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai expliqué il y a quelques cours, la Torah, effectivement, elle part, il y a un tronc, et il grandit, et plus on avance en histoire, plus il y a des ramifications, plus de détails, jusqu'aux petits détails dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On espère que très bientôt, Machiav viendra, on aura le fini, l'arborescence, pour passer à un niveau beaucoup plus haut. Mais l'arborescence, elle n'est pas que ça part du bas vers le haut, ça part du haut vers le bas. C'est-à-dire, au début, proche de la divinité, on a le tronc. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, qui parlent à Dieu. Qui sont les troncs du peuple juif, les patriarches. Ensuite, il y a les prophètes. Et ça descend. Au bout d'un moment, il n'y a plus de prophétie. Mais il y a les grands Tanaïm, après les Amoraïm, après les Géonim, les Rishonim, les Achronim, etc. Et ça descend. Notre niveau, aujourd'hui, il est le plus loin de la base. Nous sommes le plus éloignés de Dieu. Alors, il est vrai qu'on a une Torah qui est beaucoup plus vaste. Pourquoi elle est plus vaste ? Parce qu'on est tellement nul que pour chaque petite question qu'on se pose, alors c'est comme ci ou comme ça ? Des questions qui n'existaient pas il y a 50 ans.
On n'est plus médakdek, on est plus précis.
Parce qu'on comprend moins bien. À l'époque, les gens comprenaient, c'était clair. Qu'est-ce que ça signifiait ?
Du coup, si on rentre en profondeur, alors on aura une autre compréhension ?
Oui, mais on n'a pas de profondeur. On est super externe. Tu vois que le monde est externe. Aujourd'hui, beaucoup de gens te diront, il y a beaucoup de Tamil Chachamim, des sages, et des étudiants en Torah, des religieux pratiquants, qui sont beaucoup plus pointus au niveau de la halakha, mais beaucoup moins proches d'Hachem que nos ancêtres, que nos grands-parents. Les grands-parents, ils étaient peut-être beaucoup moins... Je ne parle pas de grands-parents non pratiquants. On parle de gens qui étaient vraiment investis dans la Torah, dans la pratique. Mais ils avaient une foi, une communion, un bitachon, comment dire ça en français, une confiance en Hachem, une relation avec Hachem beaucoup plus grande. Rabbi Nissan Abashou, il a écrit dans son livre sur le Moussar, Zichron Hadassah, il a dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la crainte du Shulchan Aruch, pas la crainte de Dieu. Et c'est vrai. Il faut comprendre que c'est très important de faire le Shulchan Aruch, c'est tout à fait... Il ne faut pas mal me comprendre que j'en veux dire, bon, alors l'important c'est l'amour de Dieu, et alors du moment que je fais Shabbat à moitié, du moment que j'ai l'amour de Dieu, tout va bien. Non, certainement pas. Il ne faut pas un bon cœur. Il faut une bonne action. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'action doit être l'expression de notre proximité d'Hachem. Et il est clair qu'on est beaucoup moins proche. Preuve en est, tu regardes le monde aujourd'hui, tu vois qu'il est beaucoup plus extérieur. Le monde, il est extérieur.
C'est-à-dire ?
Dans l'apparence,
ils vont en profondeur extérioriser les choses.
Dans l'apparence, C'est un monde de look, un monde aujourd'hui, tout est dans l'apparence, pas dans l'intériorité. L'intériorité, elle est rare. C'est une chose rare. Des gens qui ont beaucoup d'intériorité, des gens qui... une compréhension profonde des choses. Les choses sont très, très superficielles. Le monde, il est superficiel. Tout est... Regarde, même au niveau... on a parlé dans la famille, de, par tradition, on est bijoutier. D'accord ? Sauf moi. Moi, je m'occupe, Baruch HaShem, des bijoux spirituels. Mais ma famille, c'était le business. D'accord ? Alors, ma mère, elle avait un temps, elle avait un magasin de bijoux anciens. Bijoux anciens, ça dit il y a un siècle, 80 ans, art déco, des trucs comme ça. Eh bien... personne, aucun bijoutier est capable aujourd'hui de faire ce que faisait bijoutier il y a 80 ans. Incapable. Les meilleurs bijoutiers de comment ils s'appellent là-bas, les joailliers de quartier, d'accord, ne peuvent pas faire ce que faisaient des joailliers de quartier il y a 80 ans. Comment ça se fait-il ? Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus fort, on est meilleur, on a meilleure technologie. Oui, vu qu'on a meilleure technologie, on est moins habile, on est moins fort, on est moins... on est plus extérieur, moins intérieur. Ça, c'est un rapport entre cela. C'est un rapport, c'est pas tout à fait la même chose, Torah et bijouterie, d'accord ? Mais il est clair.
Pourquoi on a l'impression, que c'est l'inverse ?
Parce qu'on entend par les médias que le monde va et progresse. Tu connais l'histoire que le type qui va dans, qui est dans l'avion, un religieux avec son fils. Et son fils, c'est Kibbout Avem. Papa, tu veux que j'amène un thé, j'amène un café, tout ça. Il lui parle avec révérence, avec honneur, tout ça. Pour un moment, tu as son voisin qui dit, écoutez, je vous pose une question. Je vois que votre fils, il vous fait beaucoup, beaucoup d'honneur, de respect. Comment ça se fait ? Moi, mon fils, c'est terrible, je n'ai rien à lui dire. Enfin, je n'ose même pas le terrible. Et je vous explique, c'est très simple. Nous, on considère que nos ancêtres étaient des gens de très grande valeur. Le premier, c'est le premier homme. Qui était la Gemara, elle dit que le talon du premier homme rendait le soleil sombre. Tellement le talon était lumineux. Pas de lumière spirituelle. Le talon, c'est la partie la plus insignifiante de l'être humain. C'est rien le talon. D'accord ? Alors la tête du premier homme, c'est à l'image de Dieu. Après, Avraham, Yitzhak, Yaakov, des géants, Moshe Rabbeinu, qui part à Hachem quand il veut. 3 fois 40 jours, il va au Mont Sinaï sans parler, sans manger et sans boire. Après, les prophètes. Maintenant, chez nous, il y a une baisse des générations. Alors, mon fils, il comprend que moi, je suis plus proche de la source. Donc, je mérite le respect, parce que je suis quelqu'un, je suis plus proche de la source. Mais chez vous, votre ancêtre, c'est qui ? L'homme de Néandertal, ou Cro-Magnon, ou Lucie, d'accord ? On ne sait pas, une sorte de nonos, d'accord ? Donc, dans sa tête à lui, plus on avance, plus on est...
bah.
On est...
Hein ?
Plus on évolue, plus on avance, plus on est évolué. Donc pour moi, le père, enfin vous le père, dans son esprit, vous êtes proche de l'homme de Cro-Magnon. Lui maintenant, regardez d'ailleurs, c'est stupéfiant. Aujourd'hui, les gosses de 2-3 ans, comme ils minent les iPhones, les machins, les gens de notre génération, vous savez, vous avez encore connu, mais nous, les gens de notre génération, c'est très dur. On se retrouve à peine. T'as des petits enfants. Je racontais, j'ai vu une petite fille, elle a 1 an et demi, elle répond, normalement, elle devrait déjà marcher dès l'âge de 1 an, elle ne marche pas encore, elle a 1 an et demi. Par contre, elle prend le iPad. Elle l'allume, elle fait comme ça, elle tourne, elle appuie. Extraordinaire. En bien ou en mal, je ne sais pas. Mais c'est phénoménal. Je veux dire, ils sont nés avec le iPad. Ou comme les élèves, je vais arriver le matin, ils ont 3 mains, gauche, droite et l'iPhone. D'accord, c'est une partie intégrante du corps.
Ça avance.
Donc, les gens qui considèrent que ça avance, eh bien, si je suis plus évolué, mes parents, c'est des vieux pépés. D'accord, c'est... l'ancienne génération, ils n'ont absolument rien compris. C'est vrai au niveau physique. Dans la technologie, au niveau de la physique, ça avance. La science, elle avance. La médecine, elle avance. La technologie, elle avance. Plus ces choses-là avancent, plus l'être humain, il régresse. Alors, on n'est pas, ne me comprenez pas que, bon, alors, dans ce cas-là, on laisse tout tomber, on va habiter dans les grottes. Non, il faut vivre avec son temps, etc. Mais comprendre qu'il y a une baisse des générations, ça c'est une notion basique du judaïsme, il y a une baisse des générations. Rien que si on parle au niveau mystique...
Ça veut dire qu'il faut plus vivre avec son temps, ça veut dire que va falloir accepter l'iPhone dans quelques années ?
L'iPhone, s'il est cachère, oui, s'il n'est pas cachère, non. Mais par exemple, si on peut aujourd'hui tu as Internet avec des filtres Kacher, ils sont en hébreu, en Israël, tu as Native, tu as Rimon, c'est permis, c'est bon, si c'est nécessaire. Alors, il y a toujours un certain danger, comme chaque nouvelle technologie, mais si on peut faire de façon que ce soit complètement Kacher, c'est certain que c'est bien. C'est pas mal, c'est bien. On va pas dire la voiture, d'accord ? Non, moi je vais à l'ancienne, je vais pas à pied, voilà, à dos de chameau, à dos d'âne, en sabot. D'accord ? Pourquoi avoir des Nike en sabot ? Je dis pas ça. Je dis qu'on vit avec son temps, dans tout ce qui est permis, oui, il n'y a aucun problème. Ça fait partie de l'histoire. Le Zohar, il y a un Zohar qui dit que dès le sixième, début du sixième millénaire, c'est donc en l'an 5000, tous les siècles, il y aura une avancée au niveau des connaissances de ce monde-là. Une avancée lente. On arrivera en l'an 5600, après 6 tranches de... Non, le Zohar ne dit pas comme ça. Il dit que tous les 60 ans, il y aura une certaine avancée. Lorsqu'on arrivera à 10 fois 60, correspond à 10 sphères, donc en l'an 5600, il y aura dans le ciel une ouverture des portes de la sagesse de la Torah, et ici sur terre, une ouverture des portes de la sagesse des sciences profanes. Ça tombe en l'an 1840. Et c'est stupéfiant, à l'époque on montrait ça dans les conférences. Le nombre d'inventions qu'il y a eu autour des années 1840, c'est stupéfiant. Aujourd'hui, on vit encore sur le... Aujourd'hui aussi, il y a des nouvelles inventions, il y a des progrès, mais le tournant de l'histoire a lieu à ce moment-là. On peut dire, il y a eu 3000 ans, on a plus ou moins barboté, d'accord, on a piétiné, il y a 2000 ans, on a amené la roue de Chine, après peut-être il y a eu un peu plus, d'accord, mais ça a plus ou moins piétiné. Tout à coup, en quelques années, le téléphone, l'électricité, les machines à vapeur, enfin, toutes les choses sur lesquelles on commence à, aujourd'hui, on fait que perfectionner ce qui a été découvert à l'époque, le tournant a eu lieu. Et ça tombe exactement à la date qu'a donné le Zohar. Donc le Zohar, il prévoit qu'il y aura dans l'histoire une technologie. Ça va dans le sens de l'histoire. Ça correspond aussi à un grand dévoilement de choses du secret Torah qui sont dévoilées dans le ciel en haut, pas dans notre monde. Donc on est oué pour la technologie. Mais il faut comprendre que, pas à cause de la technologie, mais parallèlement, il y a une baisse au niveau spirituel. Plus profondément, pardon ?
Dû à la technologie ?
Non, pas dû à la technologie. Dû à quoi ? Dû au fait que nous sommes des petites âmes. L'humanité, elle a un job à faire. Comment expliquer cela ? Bon, on va commencer par le début. Et Dieu créa Adam et Ève.
C'est pas le début.
C'est le début de l'humanité, d'accord ? Adam contenait en lui toutes les âmes du peuple juif, 600 000 âmes. Donc ce qu'il faisait, c'était les âmes juives qui le faisaient, d'accord ? Chaque acte que fait Adam, c'est nous en fait, c'est nos âmes, d'accord ? On était inclus en lui. Il devait attendre, il a été créé le vendredi matin, il était à un niveau extrêmement haut. La mystique juive dit que sa tête était déjà dans la divinité. Le reste du corps était encore en bas, mais à niveau, je vous dis, il était lumière, un être de lumière. Et sa tête était déjà dans la divinité, il était déjà une tête divine. Il devait attendre jusqu'à l'entrée de Shabbat, et là, il rentrait complètement en union avec la divinité pour l'éternité, avec la nuance qu'avant d'être créé, il n'existait pas. Là, il existe en tant qu'être indépendant, autonome, uni à Dieu. Une unité de divinité à divinité. Quelque part comme une unité de divinité à divinité. Il devient divin et s'unit à la divinité sans disparaître pour autant. C'est le grand cadeau que nous attendons, Olam Haba. Il fait le péché originel. Dès lors, toutes les âmes tombent très très bas dans des mondes qui ne devaient même pas exister. Et en descendant dans ces mondes, ces âmes qui sont étincelles de vie donnent vie à ces mondes.
Mais c'est pas Hachem qui les maîtrise.
Hachem, il donne un libre arbitre. Il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Là, tu mourras. Alors, tu vas baisser. Mort, c'est que tu vas donner vie à la mort. C'est quoi, tu vas donner vie à la mort ? Il y a des mondes morts qui, si tu pêches, tu vas donner le flux divin à ces mondes. Tu baisses, c'est parti par les dames, descends dans ces mondes-là et donne vie à la mort. Ça fait des morts vivants. Qu'appelle-nous en français Dracula ou Frankenstein. D'accord ? ou modernement, Ahmadinejad, Nasrallah, Hitler, Staline, tous les grands ennemis du peuple juif. Ce sont des morts vivants, ce sont des véhicules du mal. Le mal ne devait pas exister. C'est le péché du premier homme qui lui a donné vie. Donner vie à la mort signifie créer le mal. Oui.
Quelqu'un, il choisit d'être mal. Il est enfant, il est comme les autres, il choisit d'avoir des actions qui sont mauvaises.
Oui.
C'est son choix à lui, mais il peut très bien faire des bonnes actions, et d'un coup, il va craquer, il va faire du mal aux gens, il va tuer toute sa famille. Des fois, on voit des gens qui sont une vie tout à fait normale, et d'un coup, ils tuent toute leur famille.
Alors ?
Alors, c'est quoi c'est...
On a un libre arbitre.
Ce sont des chamans qui arrivent d'un coup comme ça dans le cœur en pleine vie.
On a un libre arbitre. Hachem nous met des épreuves dans la vie, et des fois, les épreuves, tout à coup, elles sont subites. Rapidement, si on ne sait pas travailler, on tombe dans le panneau. On a des choix sur place et surtout un travail à faire de toute sa vie, de travailler.
C'est dans celle-là de mal que l'action a fait tomber. Elle rentre en nous quand on prend la décision de faire du mal. On donne la vie en fait à ça.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Au niveau du premier homme, après on verra nous où on est dans cette histoire-là. Donc, toutes ces âmes-là tombent. Dès lors, il y a création d'un monde physique. Avant, tout était spirituel. Ce que la Torah dit, le premier homme a été chassé du paradis. Il a quitté un monde spirituel et est tombé dans un monde matériel, où le mal est beaucoup plus fort, donc où les choix sont beaucoup plus durs. Maintenant, par les choix que nous faisons, par l'application des mitzvot, par l'étude de Torah, et s'il n'y a pas cela par la souffrance, on fait un birour, une sélection, on retire les étincelles de sainteté, les morceaux d'âme, qui repartent vers leur source, et la mort meurt. Si on ne le fait pas, je me dis, il y aura souffrance. C'est-à-dire que la mort, elle a une puissance de mal, elle déverse tout son mal qu'elle a déversé, des pogroms, des shoahs, des trucs terribles, voilà. Et après, une fois qu'elle a déversé tout son mal, elle disparaît parce que toute son énergie est partie en mal, il n'y a plus d'énergie. L'énergie, c'est la vie. C'est la vie, c'est les étincelles d'âme.
Est-ce qu'on la perd quand on fait une avéra, on perd ce potentiel de...
Nous, on reçoit tous les jours d'autres parties d'âme de notre âme. D'accord, tu as ton âme. Ton âme, c'est le nombre. Chaque jour, tu reçois une autre partie de cette âme-là.
Donc, moins tu fautes, plus tu accumules.
Alors, toi, tu reçois tous les jours une nouvelle. C'est pour ça que tu es en forme tous les jours. Tu reçois une nouvelle partie d'âme. C'est parti maintenant, ou tu la réalises en bien ou en mal. Ou tu la mets dans la sainteté. Tu fais avec cela des mitzvot, des choses qui vont faire... qui vont réaliser des entités divines, où tu réalises maintenant de la mort, où tu donnes de la force à la mort. Tous les mots.
Quand on réalise le bien.
Oui.
Vie au bien, c'est-à-dire, part de nous cette vie-là.
Non, ça t'appartient après. Ça reste à toi. C'est ta partie d'âme qui s'est réalisée. Elle s'est réalisée dans toi en bien. Elle reste, elle va après dans le coffre-fort qui s'appelle ton nom, Binyamin. Tac, coffre-fort Binyamin, c'est son âme. Quand tu vois là-bas, on t'ouvre tout. Qu'est-ce que tu as? Tu as tout ce que tu as réalisé. En bien ou en mal. Le mal que tu as réalisé, il faut le réparer. Le bien, il reste pour toujours. Oui.
Juste une petite parenthèse, quand on fait du lâche-marre à une personne, tous les trous qui passent à la personne. C'est ce petit coffre-fort-là qui passe à la personne.
Quand on fait la sonora sur quelqu'un, alors on prend lui, on a de nos mérites qui passent chez lui, ouais, absolument. Ouais, une part du coffre-fort, ouais, ou tout.
Merci.
Qui part. On espère. On espère. Moi, ouais, c'est très dur.
C'est déprimant, là.
Ouais.
Chacun se fait passer.
On fera tchouva vers ta chambre.
Quand
tu fais tchouva
sur la chambre que j'ai fait,
ouais. Ouais, bien sûr, tu reprends. Tchouva, ramène tout. Tchouva, hey. Ces parties divines, elles correspondent dans la mystique juive à la quatrième lettre du nom de Dieu. Hey. Yud, ke, vav, et puis hey. Tchouva, c'est fait tchouva, hey. Reviendra le hey. Que revienne le hé. Quand on fait tchouva, quand on dit j'ai péché, je regrette et j'arrête, alors on amène par cela qu'on a donné nos parties d'âme qu'on a mis dans le coffre-fort du mal, d'accord ? On lui retire cela. Le mal, on a dit ce sont des forces de mort, ce sont même pas des forces, ce sont des morts. À qui on donne force ? Donc il devient maintenant plein d'énergie, des parties de mon âme. Quand je fais tchouva, je lui retire ma partie d'âme qui m'appartient, elle va dans mon coffre-fort à moi et lui crève. Mais il n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'attraper, il se bat, il ne me laisse pas, et il te refait retomber, et il faut se battre. Tu tiens bon, à la fin il crève.
Le Hachemara, c'est jamais tchouva, tous les jours ça recommence.
Dans ta chaîne. On fera tchouva. Je continue. En parenthèse, on est dans les parenthèses, tous les termes en hébreu qui signifient péché parlent de cette notion-là. péché, ça dit en hébreu pécha. Pécha, c'est les lettres du mot shefa à l'envers. Shefa signifie flux d'abondance. Tu reçois toujours un flux d'abondance ? T'inverses. Au lieu de le prendre maintenant, aller dans la bonne direction pour réaliser maintenant des choses divines et les faire remonter, ça part dans le mal. Si tu le fais très gravement, ça fait un issour qui est sanctionné par le karet. Karet, il y a 10 sphères. La sphère la plus haute s'appelle keter. Karet, c'est permutation de cette lettre-là. Keter, c'est la couronne. Tu as touché au niveau de la couronne. Au niveau le plus haut, tu as fait là-bas, tu as changé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Avon, avon hébreu, ça vient du mot ivout, qui signifie tordu. Le flux, au lieu d'aller vers son vrai but, il est parti vers le côté du mal. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Chet, chet signifie en hébreu raté. Au lieu d'aller à la bonne cible, c'est parti de côté. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore ? Racha, un mécréant, c'est les lettres SR. SR, c'est 10. Les 10 sphères, il a permuté. Au lieu que ça soit tout dans l'ordre bien comme il faut, ça va à son vrai but, ça se réalise, c'est tout. Le grand fruit. Chet,
c'est quoi son...
Chet, c'est raté en hébreu.
Oui, mais son bon côté, justement.
Ah, dans la permutation des lettres. Pas besoin, ça c'est un raté pour raté, d'accord. Chet. D'accord, ça c'est un raté. Donc je vais faire la parenthèse. Pour tout ça, qu'est-ce qu'on voulait arriver ? On voulait arriver à notre qui nous sommes nous aujourd'hui. Alors, il nous reste encore 12 minutes. Donc, on a pris le péché originel, création de ce monde-là avec tout le mal qui reçoit l'énergie des âmes du premier homme. Et l'histoire et la Torah sont très bizarres. Ils nous racontent en deux parachiotes 2000 ans d'histoire. Après, tout le livre de Shemot me raconte un an, même pas, 2 mois. Allez, 3 mois, 3-4 mois. T'as 2000 ans, 2 parachiotes, 2 sidrats de la semaine, et après, pendant 2 mois et demi, on lit un livre entier de la Torah qui ne parle que de 3-4 mois de l'histoire. Il y a un déséquilibre. Tu fais un bon bouquin d'histoire, bah tu racontes, tu fais un chapitre pour le premier millénaire, enfin tu fais un livre pour le premier millénaire, un autre pour le deuxième millénaire, et tu continues comme ça. Tu as 5-6 livres, d'accord ? Réponse, la Torah n'est pas un bouquin d'histoire. Rien à voir. Ah, pourquoi on me raconte l'histoire de la création du monde ? Pourquoi on me raconte Adam et Ève ? Pourquoi on me raconte le déluge ? Pourquoi on me raconte ce qui s'est passé jusqu'à Adam ? Parce que l'histoire que raconte la Torah est l'histoire de ses âmes. C'est tout ce qui intéresse la Torah, pas l'histoire. En général, l'histoire de ces âmes, parce que c'est ça le but et le comment du monde. Ces âmes-là sont revenues en réincarnation dans leur première venue sur Terre s'est faite en tant qu'être humain, s'est faite dans la génération du petit-fils de Adam. Il s'appelait Enoch. À cette époque-là, dit la Torah, on a commencé à profaner le nom de Dieu sur Terre, parce qu'on a commencé à faire l'idolâtrie. Ça commence, deuxième génération après, Adam. Et l'idolâtrie là va en florissant. Prends-moi compte du déluge. Ce sont les mêmes âmes qui sont venues au déluge. Et au lieu de réparer, elles ont été attirées par le mal qui avait en elles, elles sont tombées encore plus graves. Après, elles sont revenues à la tour de Babel. Revenues Sodome et Gomorre. Vient Abraham. Et le seul qui a réussi à se monter au-dessus et à réparer tout. Et puis, ça a commencé à influencer les autres aussi. Hachem a dit, au lieu que toute l'humanité maintenant s'occupe de ces âmes-là, je fais qu'Avram et sa descendance, Avram et Yaakov, eux s'occuperont de ces âmes-là, le peuple juif. La descente en Égypte, pourquoi est-ce qu'on doit aller souffrir 400 ans en Égypte ? 210 ans on y était. Pourquoi 210 ans en Égypte ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'est même pas encore né. Réponse, mais si vous êtes né, vous êtes les réincarnations de ces générations. Enoch, Déluge, Tour de Babel, Sodome. Dans le Rav Chida, il montre cela en signe. C'est marqué dans Shemot qu'Hachem va nous sortir d'Égypte. Votseti etrem mitachat silot Mitzrayim. Je vais sortir des, c'est traduit en français, tribulations de la terre d'Égypte. Le Rav Chida, il dit que il y a 5 mots. Etrem, mitachat, sivlot, eretz, mitzrayim. Si tu prends les 4 premiers mots de ces 5 derniers mots du verset, hotseti, c'est hey, première lettre hey, comme haflaga, la génération de la tour de Babel. Etrem, C'est l'être Aleph, première Aleph, comme une génération de Aleph Enosh. Mitachat, la lettre même de Mitachat, correspond à Maboul, le déluge. Silot, sa mère, Sodome. On finit en Mitzrayim. Là, Hachem va nous retirer d'Égypte, nous retirer aussi de tout ce qu'on... C'est pas que l'Égypte. L'Égypte est tout ce qu'on a fait comme mauvaise chose. Tout ça a été réparé par la sortie d'Égypte, qui était le fruit de la souffrance de l'esclavage en Égypte.
C'était pas dans l'ordre.
Ok, bah tout va très bien, on sort d'Égypte, on a tout réparé, on sort la Torah au Mont Sinaï, et c'est marqué qu'à ce moment-là, effectivement, tout a été réparé. Le venin du serpent a été enlevé. Le venin du serpent, ça veut dire ce mal qu'il y avait a disparu. 40 jours plus tard, boum, badaboum, on retombe le veau d'or. Et tout retombe. Et dès ce jour, messieurs, on est dans le boulot de refaire ce que nos ancêtres ont fait en Égypte, faire cette sélection, de faire remonter maintenant toutes les parties d'âme. Jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Quand vient le Mashiach, il arrive, on arrive à la situation du don de la Torah au Mont Sinaï où le venin a été enlevé, qui est la situation antécédente de Adam et Ève, antécédente au péché originel. On espère pour les semaines à venir avec l'aide de Dieu. Ce coup-là, on y croit, Père Sachem. Oui.
Comment en Égypte, on a mis seulement 210 ans à l'Égypte ?
Hein ?
On a mis 210 ans pour réparer.
210 ans d'esclavage ?
Oui. On peut dire qu'on a un esclavage aujourd'hui.
Hein? Ouais, mais c'est pas la même chose. La Shoah a fait avancer. La Shoah a fait un grand, grand. Mais imagine une Shoah de 80 ans, dans une le coup. On n'aura pas une le coup. Alors, hein?
110 ans par rapport à 2000 ans.
Ok, ça va.
210 ans, ça a réparé les âmes.
Oui, mais je te dis, 210 ans d'esclavage ne sont pas comparables à ce que nous, aujourd'hui. Bon, le peuple juif, au Khachem, ne souffre pas comme en esclavage en Égypte. Et je veux dire plus que cela. Non seulement on ne va pas à la même allure, mais aussi on fait des bêtises. Chaque fois qu'un homme aujourd'hui il a une pollution volontaire, d'accord, une émission de sperme en vin, t'as pas pire que ça. Ça, c'est carrément prendre la vie et la remettre dans la clipa. D'accord ?
Ça, pendant 200 ans ?
Hein ?
En Égypte.
La souffrance est tellement grande que ça fait une capara de tout. Je ne sais pas, c'est marqué qu'il n'y a pas eu de relation entre les Égyptiens, les Égyptiennes et les Juifs. D'accord ? Il n'y a pas eu de. Là, ils tenaient bon. Hein ? Volontaire, involontaire, je pense qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous. C'est certain qu'ils étaient plus. Mais même s'il y a eu la souffrance.
Ils sont descendus plus bas.
Ok, aujourd'hui, il y a beaucoup de. On repart et on recasse. On repart et on recasse. J'aimerais juste arriver à ma chute. Alors,
c'est pour votre chute.
Oui.
Pourquoi alors les âmes, elles baissent ?
Exactement. Alors, maintenant. Moshe vient sur terre, pas Moshe Rabbeinu. Moshe, qui est le petit-fils de l'oncle de Moshe, d'accord, hein, de la génération après Moshe Rabbeinu. Son âme arrive sur terre maintenant, mélangée bien et mal. Il a un boulot à faire. Il est rare qu'en une vie, on fasse 100% du job qu'on a à faire de réparation de notre âme. Si on arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe ? On va dire qu'on a réussi à faire un boulot, 80% on a réparé. Reste 20% qui n'est pas réparé. Le 80% revient à Moshe, il va à la Mabba, c'est son 80%, il est content dans l'éternité. Le 20% qui revient passe dans le corps de quelqu'un d'autre, qui s'appellera Yaakov. Yaakov reçoit, comme 100% de Yaakov, qu'est-ce qu'il reçoit ? Le 20% de Moshe. Donc du point de vue potentiel, Yaakov il est beaucoup moins que Moshe. Maintenant, Yaakov, il a son 20%. Et il bosse. Bon, il bosse pas beaucoup, il est paresseux. Il lui fait 30%. Ah, ça veut dire 30%. Non, 30% est possible. 30%
de ses
20%. Ce qui fait 6%
et demi.
De Moshe.
6%, pas et demi. 6% de Moshe. Ce 6%-là lui revient. Il reste maintenant 14% qu'il faut réparer, qui ne sont pas encore faits, viennent dans le corps d'un autre. Un siècle plus tard, Aaron.
On compte que leur faute à eux, on compte pas leur faute à nous.
C'est-à-dire, c'est qui le eux dont tu parles ?
Leur 100% à eux du premier.
Moshe, tu parles.
Moshe, de son 100% à lui.
Je ne parle pas que des erreurs, je parle des deux. Il y a des erreurs qu'a fait Moshe, qui doivent être réparées aussi, dans le corps de qui vient après, c'est Yaakov, et aussi le manque de mitzvot qu'a fait Moshe. Parce qu'il a potentiel, il devait étudier par exemple. Lui, t'as une capacité d'étude, il faut que tu fasses dans ta vie 10 macertot, 10 traités du chasse. D'accord ? Et lui, il n'a fait que 8. Et bien, tu vas dire, pour les deux qui manquent. Par exemple.
Et alors, au final, imaginons qu'on arrive à faire les 100%.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, nous aujourd'hui, on est tous des recalés. On est tous des presque. Ouais, on peut dire que sur Terre, quasiment tout le monde sont des réincarnés. Mais qui on est ? On est des millionièmes. des millionièmes. On est là pour réparer les derniers petits détails. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance, parce qu'il n'y a plus de temps, il faut réparer maintenant. Faut absolument, c'est la fin, d'accord ? Et si on n'arrive pas à réparer de façon intelligente, on réparera avec la souffrance. C'est pour ça que le monde, il va mal. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de mal dans le monde, parce que le résultat, maintenant, c'est le noyau dur qui appelle. Ça fait 3000 ans qu'on essaie de réparer ça, on n'arrive pas encore à le réparer. C'est le noyau dur. Donc ça veut dire une Shoah, donc ça veut dire le monde dans sa décadence aujourd'hui, à tous les niveaux moral, d'accord ? Nous sommes maintenant les derniers millionièmes de millionnèmes. C'est pour ça que nous sommes maintenant d'un potentiel très petit. Donc, on ne peut pas avoir une grande profondeur. Impossible. Tu compares maintenant un millionième avec un entier. Ça n'a rien à voir. Quand Machia viendra, très bientôt, alors chacun recevra maintenant un grand, grand cadeau d'un grand entier d'âme. Même avec nos millionièmes, on arrivera à des niveaux très, très hauts. Bat Hachem, alors, on vivra dans une connaissance très profonde d'Hachem. Alors oui.
Comment savoir ce qu'on a réparé ?
Comment savoir qu'est-ce qu'on a réparé ? C'est extrêmement simple. Tu prends Shulchan Aruch et tu vis de façon adéquate à ce qui est marqué dedans. Tu fais ça, tu as réussi.
Non, pareil.
Shulchan Aruch, il y a un code des lois juives. Quand nous faisons ces lois-là, alors Hachem fait en sorte qu'on répare tout. Maintenant, Hachem veut que tu travailles sur la jalousie. C'est une partie que tu dois. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te mettre en face de quelqu'un dont tu, de façon naturelle, tu es jaloux. Et là, tu as un boulot à faire. Et vu que tu travailles maintenant sur les tables, sur les envies, alors il te met des filles qui te cherchent, d'accord ? Ou des bons plats, comme la yeshiva par exemple. D'accord ? Tu dois ne pas voler. Tu as maintenant l'occasion d'être malhonnête et hop, prendre un peu plus d'argent. Hachem fera en sorte, voyant que toi tu vas dans ta vie, c'est Hachem qui s'occupe maintenant, c'est lui le grand entraîneur. Chacun, il voit exactement qu'est-ce qu'il lui faut maintenant pour arriver à faire son tikkun. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive dans notre vie, il faut comprendre que ce sont des envoyés d'Hachem pour notre tikkun, pour notre bien. Et chaque fois qu'on arrive à maîtriser la situation, à faire partir de la souffrance, parce que d'habitude une souffrance qu'on a par rapport à un ressentiment à quelqu'un, c'est toujours une chose qui n'est pas pure, c'est un truc qui n'est pas propre chez nous. On arrive à nettoyer ça, on travaille, on avance.
Au niveau de l'épisode, je comprends ce que vous dites, mais au niveau d'études, comment je peux savoir où est-ce que je me situe ? Aujourd'hui, je suis à la yeshiva, mais bon, moi, j'ai pas tout ce travail à faire.
Alors, à l'étude, c'est comme dans les études, d'accord ? Dans les études, d'abord, on va au CP, on apprend à lire un mot. Après, on fait des phrases. Après, on fait la grammaire, la conjugaison. Une fois qu'on est déjà bien, alors on aura déjà, tu auras plusieurs voies. Une fois que tu seras bien étudié, tout seul, ton corps va te pousser à différentes. Il y en a qui aiment la halakha, il y en a qui aiment la gemara en bekiyut, il y en a qui aiment le iyun, il y en a qui aiment la kabbalah, il y en a qui aiment le midrash. Chacun va aller dans ce qu'il faut pour lui. C'est pour ça que Chazal l'ont dit, une personne étudie que ce que son corps lui dit. Il est dirigé par ça.
Ce qui me plaît, ce que j'aime, c'est que finalement, ce que je n'aurais pas.
Exactement.
Et si c'est les sujets qui ne m'intéressent pas, ou les, je ne sais pas, moi, je n'aime pas.
Actuellement, tu dois apprendre à lire. Parce que je dis maintenant, c'est une fois que tu auras le bac, alors tu fais ce que tu veux. D'accord ? Le bac, il faut l'avoir. Tu entends, Rouven ? Il faut le bac. Oui.
Le bac, c'est quoi ? C'est le chasse ?
Si je comprends bien.
Savoir. Autonomie. Autonomie dans le chasse.
Si je comprends bien, avec votre calcul, notre 100% à nous, par exemple, c'est le 20% de lui qui nous manquait.
Voilà.
Le problème, c'est que nous, on ne fera jamais notre 100%. Donc
pourquoi pas ? Mais surtout, tu le feras.
Surtout avec aujourd'hui la tentation et tout.
Tu le feras. C'est notre génération. La Tchouva européenne, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on est la génération qui finit tout. Machiav nous aidera à faire le dernier. Le dernier. Avant de tâcher ma paix. Vous regardez, monsieur, on nous attend là.
Les mots qu'ils ont fait, ils ont fait nous des choses petites. Il n'y a rien ce qu'on fait par rapport aux générations précédentes.
Je l'ai raconté souvent.
Des actions petites.
Alors, Rabbi Noiré a expliqué à son élève Rabbi Haïm Vital, qui était aussi grand que Rabbi Akiva. Il lui a dit comment ça se fait. Et c'est très simple. Tu n'es pas aussi grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un projecteur, toi tu es une petite lumière. Mais à notre époque, il fait très très noir. Ta petite lumière que tu fais, elle fait autant d'effet que le projecteur Rabbi Akiva. Et ça, c'est Rabbi Noiré qui dit ça à Rabbi Hamital il y a 500 ans à Tzfat. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui se retient d'une Avera, il fait une lumière énorme dans le monde. Sachez qu'il n'y a pas une génération depuis longtemps qui a fait autant de lumière dans l'humanité que ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, malgré. Justement parce que le monde il est extrêmement noir.
Et dans les 100%, nous nous restait d'un 0,5% à faire.
Oui. 0,5%. Un millionième très à faire. Ouais.
Un millionième même pas.
Ok, alors
on doit compléter une action, quelque chose pour pouvoir compléter.
Tu vois.
Ah mais c'est pas ça, le truc c'est qu'on doit faire des actions pour pouvoir se compléter.
Chouva, c'est la meilleure action qui s'appelle Chouva.
Je te fais faire
Chouva,
c'est une action.
C'est une maxime, mais ça en soi, bien sûr. En plus, t'étudies la Torah. La Torah, c'est la plus grande action qui
s'appelle
Chouva.
Est-ce que les actions qu'on doit faire, c'est par exemple étudier un
chèque de Mara? Ça va, t'en fais pas toute ta vie. Hachem, il sait exactement ce qu'il te faut, il t'a pas oublié. Il y a un ordinateur qui tous les jours ce qui t'arrive. Tu te lèves pas, t'as rencontré comme ci, t'as rencontré comme ça, t'as une pensée comme ça, t'as truqué avec quelqu'un qui t'a pris ton schnitzel. Tout est calculé pour que tu fasses ton écoute. Bah,